Ben-Hur, chapitre 36. Ira, la séductrice. Ben-Hur avait compté trouver vers le matin un endroit sûr où il pourrait se reposer, mais à l'aube, ils étaient encore en plein désert. Aussi dut-il se résigner à continuer sa course, confiant à la parole du guide qui lui promettait de l'amener bientôt dans un vallon abrité par les grands rochers, où il trouverait une source, quelques mûriers et de l'herbe en suffisance pour leurs chevaux. Il chevauchait en songeant aux grandes choses qui se préparaient et changeraient la face du monde, quand le guide attira son attention sur des étrangers qui venaient de paraître derrière eux dans le lointain. Tout autour d'eux s'étendait le désert de sable, sur lequel le soleil levant jetait une teinte jaune et où l'on eût en vain cherché la moindre tache verte. À leur gauche, mais à une grande distance encore, se profilait une ligne de montagnes basses qui semblait interminable. Dans une étendue aussi désolée, un objet en mouvement ne pouvait longtemps échapper au regard. « C'est un chameau portant plusieurs personnes, » dit bientôt le guide. « Y en a-t-il d'autres derrière lui ?»« Il est seul, non, il y a encore un homme à cheval, le conducteur probablement. » Un peu plus tard, Ben-Hur put s'assurer que le chameau était blanc et exceptionnellement grand. Il ressemblait d'une manière étrange à celui qu'il avait vu amener Balthazar et Iras à la fontaine de Castalia. « Il ne peut en exister de pareil, » se disait-il en ralentissant l'allure de son cheval. Bientôt, il distingua clairement deux personnes assises dans le palanquin. Si c'était Balthazar et sa fille, se ferait-il connaître à eux? Mais comment se serait-il trouvé ainsi, seul dans le désert? Pendant qu'il se posait ces questions, le chameau avançait rapidement. Déjà, il entendait le tintement joyeux de ses clochettes. Un instant après, en quelques enjambées, l'animal avait rejoint les deux cavaliers, et Ben-Hur, en levant les yeux, rencontra le regard d'Iras qui se penchait en dehors du palanquin et le considérait d'un air étonné. « Que la bénédiction du vrai Dieu soit avec toi !» dit Balthazar de sa voix tremblante. « Si ma vue, obscurcie par l'âge, ne m'abuse, tu es ce fils d'Ur qui était, il y a peu de temps, l'hôte du cheikh Ilderim. Et tu es Balthazar, le sage égyptien, dont les discours concernant certains événements à venir sont la cause de ma présence en ce désert. Que fais-tu ici ?»« Celui qui est avec Dieu n'est jamais seul, et Dieu est partout, » répondit Balthazar. « Cependant, il y a derrière nous une caravane qui va à Alexandrie, et comme elle doit passer à Jérusalem, j'ai jugé bon de me joindre à elle pour me rendre à la Sainte Cité, qui est le but de mon voyage. Ce matin, mécontent de la lenteur de sa marche, nous nous sommes aventurés à nous mettre seuls en route. Je ne crains pas les brigands. J'ai un sauf-conduit signé par le cheikh Ilderim et Dieu nous protège contre les bêtes sauvages. » Ben-Hur s'inclina en disant « La signature du bon cheikh est une sauvegarde, aussi loin que s'étend le désert, et le lion serait bien habile s'il rattrapait à la course ce roi des dromadaires. » « Cependant, » s'écria Iras avec un sourire qui ne fut pas perdu pour le jeune homme, il ne serait pas fâché de voir rompre son jeûne. Les rois eux-mêmes sont sujets à la faim. Si tu es en effet Ben-Hur, tu seras heureux, je n'en doute pas, de nous indiquer un sentier qui nous amène près d'une eau courante, au bord de laquelle nous pourrons prendre notre repas du matin. « Belle Égyptienne, » répondit Ben-Hur, « si tu peux supporter encore un peu de temps la soif, nous arriverons à la fontaine qui fait l'objet de tes désirs. Son eau sera aussi douce et rafraîchissante que celle de la fameuse Castalia. » « Reçois la bénédiction des altérés, » répliqua-t-elle. « En échange, je t'offrirai un morceau de pain trempé dans du beurre qui provient des gras pâturages de Damas. Une rare faveur. Partons maintenant. » Ben-Hur prit les devants avec le guide et bientôt ils s'engagèrent dans une gorge étroite et brûlée au fond de laquelle coulait un mince filet d'eau bourbeuse. Ils le suivirent pendant un moment pour déboucher tout à coup dans un frais vallon qui fit à leurs yeux fatiguer l'effet d'un paradis. Les parois des rochers qui l'entouraient étaient tapissées de plantes grimpantes. L'eau d'une source, tout près de laquelle croissait un groupe de mûriers, courait en filets d'argent entre d'énormes touffes d'herbes et de roseaux. Un grand palmier balançait non loin des mûriers sa silhouette élégante, et les fleurs épanouies de quelques lauriers roses mêlaient une note harmonieuse aux tons éclatants de toute cette verdure. La source elle-même s'échappait d'une fissure du rocher, qu'une main soigneuse avait élargie au-dessus de laquelle quelqu'un avait gravé en caractère hébraïque le nom de Dieu. Un voyageur sans doute, après avoir passé quelques jours dans cette oasis, avait voulu donner une forme durable à l'expression de sa reconnaissance. Les cavaliers mirent pied à terre et l'Éthiopien, après avoir fait agenouiller le chameau, aida Balthazar et Iras à sortir du palanquin. Après quoi le vieillard croisa ses mains sur sa poitrine et pria silencieusement, le visage tourné vers l'Orient. Iras ordonna à l'esclave de lui apporter une coupe de cristal qu'il prit dans le palanquin. Puis elle fit signe à Banur de la suivre près de la source. Il voulait puiser de l'eau pour elle, mais elle s'y opposa, et après avoir rempli le gobelet, elle lui tendit en disant « On assure dans mon pays, fils de Hur, qu'il vaut mieux être échanson d'un homme heureux que ministre d'un roi. »« Suis-je donc un homme heureux ? » s'écria-t-il d'un ton surpris. « Les dieux nous accordent le succès pour nous prouver qu'ils nous sont favorables. N'as-tu pas été vainqueur aux fêtes d'Antioche ? C'est un premier signe de leur faveur. Mais en voici un autre. Dans un combat à l'épée, tu as tué un Romain. » Il rougit violemment à la pensée qu'elle avait suivi sa carrière avec intérêt. Puis tout à coup il se demanda comment elle avait eu connaissance de ce dernier événement. Il n'ignorait pas que le bruit de ce combat s'était répandu au loin. Mais Malouk, Hilderim et Simonide savaient seuls le nom du vainqueur du Romain. Aurait-il donc fait de cette femme leur confidente ? Dans son trouble, il restait silencieux, oubliant de lui rendre la coupe. Elle la lui prit des mains, la remplit de nouveau, et avant d'y tremper ses lèvres, elle s'écria « Ô Dieu de l'Égypte, je vous rends grâce de ce que vous m'avez fait découvrir un héros et de ce que la victime du palais d'Hyderni n'était pas un être qui me fut cher. » L'étonnement de Ben-Hur allait croissant. L'Égyptienne savait-elle donc tout ce qui le concernait ? Connaissait-elle la nature de ses relations avec Simonide et le traité avec Hilderim ? Ne l'ignorait-elle pas davantage ? Évidemment, quelqu'un devait avoir trahi ses secrets les plus importants, et cela justement quand il se rendait à Jérusalem où il serait si dangereux pour lui et ses associés qu'un ennemi en fût informé. Mais était-elle une ennemie ? Il se posait encore cette question quand elle lui rendit la coupe qu'elle venait de vider d'un trait. « N'aurais-tu pas aussi une parole aimable à m'adresser, fils de Hur ? » lui dit-elle en riant. Il prit la coupe et se baissa pour la remplir. « Un fils d'Israël n'a pas de Dieu auquel il puisse offrir des libations, mais si j'étais un Égyptien, un Grec ou un Romain, voici ce que je dirais, » s'écria-t-il en levant la coupe au-dessus de sa tête. « Ô Dieu, je vous remercie d'avoir laissé au monde, malgré ses erreurs et ses souffrances, le charme de la beauté et de l'amour, et je bois à celle qui les représente le mieux, à Iras, la plus belle des filles du Nil. » Elle lui posa doucement une main sur l'épaule. « Tu as péché contre la loi. Les dieux que tu viens d'invoquer sont de faux dieux. Qui m'empêchera de le dire au rabbi ?»« Ha ! » répondit-il en riant. « Ce serait une chose bien minime à rapporter pour une personne qui en sait tant d'autres réellement importantes. Je ferai plus. J'irai auprès de la petite juive qui soigne les rosiers plantés sur la terrasse de la maison du plus riche marchand d'Antioche. Et je lui raconterai... Quoi donc ? Je lui raconterai les paroles que tu m'as adressées sous ta coupe levée en prenant à témoin du dieu étranger. » Il semblait attendre qu'elle en dît davantage et restait silencieux. Il se représentait Esther, debout à côté de son père, écoutant la lecture des lettres qu'il lui envoyait ou les lisant elle-même. Il avait raconté à Simonide, en sa présence, l'affaire du palais d'Hyderni. Elle et Iras se connaissaient. L'Égyptienne était habile et rusée, Esther simple, affectueuse et par conséquent facile à circonvenir. Simonide ne pouvait l'avoir trahie, il ne rime pas davantage. Indépendamment de leurs paroles données, ils avaient autant d'intérêt que lui-même à ne rien divulguer. Il n'accusait pas Esther, mais ne pouvait s'empêcher de la soupçonner d'avoir involontairement renseigné l'Égyptienne. Avant qu'il eût le temps de répondre à Iras, Balthazar parut près de la source. « Nous sommes tes obligés, fils de Hur, » dit-il de sa voix grave. « Ce vallon délicieux, cette herbe, ces arbres, cette ombre nous invitent à nous y reposer. » Cette eau rafraîchissante, dont chaque goutte étincelle comme un diamant, chante à mes oreilles les louanges du Dieu d'amour. Mais il ne me suffit pas de te remercier pour les jouissances que tu nous as procurées. Viens, je te prie, t'asseoir près de nous et goûter à notre pain. Permets avant tout que je te donne à boire, répondit Benhur en lui tendant la coupe pleine d'eau. Un esclave leur apporta des linges pour essuyer leurs mains. Puis, quand ils eurent terminé leurs ablutions, ils s'assirent à la manière orientale sous la tente qui, bien des années auparavant, avait abrité les trois mages au désert et mangèrent de grand cœur les aliments tirés des bagages des Égyptiens. « Lorsque nous avons failli te devancer, fils de Hur, ton visage semblait être tourné comme les nôtres vers Jérusalem, » dit Balthazar à la fin du repas. « Ne t'offense donc point si je te demande si tu t'y rends également. »«
Oui, je vais à la Sainte Cité. »
« Comme j'ai grand besoin d'éviter d'inutiles fatigues, je te demanderai encore s'il existe une route plus courte que celle qui passe par Rabatamon. Il y en a une plus mauvaise, mais plus courte, qui passe par Gérasa et Rabat-Gilead. C'est elle que je compte suivre moi-même. « Je suis impatient d'arriver, » dit Balthazar. « Ces derniers temps, mon sommeil a été visité par des rêves, ou plutôt par un rêve, toujours le même, une voix. » Ce n'est qu'une voix, me crie « Hâte-toi, lève-toi, celui que tu as si longtemps attendu va paraître. »
Tu veux parler de celui qui doit être le roi des Juifs ?
De quel autre pourrait-il être question ?
Tu n'as donc rien appris de nouveau à son sujet ?
Rien, si ce n'est ce qu'en disait cette voix.
Alors, voici des nouvelles qui te réjouiront comme elles m'ont réjoui.
Benhur prit dans sa ceinture la lettre de Malouk. D'une main tremblante, l'Égyptien la déplia et la lut à haute voix, puis il s'écria avec émotion « Ta bonté envers moi a été grande, ô Dieu. Accorde-moi, je te prie, la grâce de voir encore une fois le Sauveur et de l'adorer, et ton serviteur sera prêt à s'en aller en paix. » Les paroles, les manières, la personnalité étrange de celui qui venait de prononcer cette simple prière produisirent sur Benhur une impression profonde. Jamais Dieu ne lui avait paru si vivant ni si près. Il lui semblait qu'il se trouvait en cet instant à leur côté, qu'il était un ami, un père, le père des gentils aussi bien que des juifs, le père universel auquel tous ses enfants pouvaient aller sans qu'il fût besoin d'intermédiaire, de rabbi, de prêtre ni de docteur. La pensée qu'un Dieu semblable pourrait envoyer à la terre un sauveur au lieu d'un roi se présenta à son esprit sous un jour tout nouveau. Il commençait à comprendre non seulement qu'un don pareil serait plus adapté aux besoins de l'humanité, mais encore qu'il serait plus conforme à la nature d'un Dieu pareil. Pourtant, il ne put s'empêcher de dire « Penses-tu toujours au Balthazar que celui qui va venir sera un sauveur et non pas un roi ?»«
Oui, répondit l'Égyptien, je n'ai pas changé d'opinion. » Je vois qu'il y a encore la même différence entre nous. Tu te prépares à aller à la rencontre d'un roi, et moi à celle du sauveur des âmes. Mais levons-nous et reprenons notre route. Il me tarde de voir de mes yeux celui qui est l'objet constant de mes pensées. Si je vous presse ainsi, fils d'Hur, et toi, ma fille, que ce soit là mon excuse. »
L'esclave, sur un signe du vieillard, replia la tente et la serra avec les restes du repas dans une caisse placée au fond du palanquin. Pendant que l'arabe allait chercher les chevaux qui paissaient en liberté auprès du ruisseau. Peu d'instants plus tard, ils revenaient sur leurs pas et longeaient de nouveau la gorge étroite avec l'espoir de rejoindre la caravane. Elle était très pittoresque, cette caravane, mais elle avançait lentement. Bientôt, Balthazar et ses compagnons, perdant patience, décidèrent de continuer leur voyage sans plus s'inquiéter d'elle. Le soir les trouva campés dans le désert d'Abilène, près d'une source à côté de laquelle ils avaient dressé la tente de l'Égyptien. C'était la seconde veille de la nuit, et Benhur montait la garde, sa lance à la main, à un jet de pierre du chameau endormi. Il regardait les étoiles, quand une main se posa doucement sur son bras. Iras était devant lui.
« Je pensais que tu dormais, » lui dit-il.
« Le sommeil est bon pour les vieillards et les petits-enfants. Je suis sorti pour contempler, mes amis, les étoiles du sud qui brillent en ce moment au-dessus du Nil. Confesse que tu t'es laissé surprendre. » Il prit sa main dans la sienne en disant « Cela est vrai, mais est-ce par l'ennemi ?»«
Oh non, être l'ennemi de quelqu'un, ce serait le haïr, et la haine est une faiblesse qu'Isis ne laisserait pas approcher de moi. Sache qu'elle a déposé un baiser sur mon cœur lorsque j'étais encore au berceau. » Tes discours ne ressemblent pas à ceux de ton père. Ne partages-tu pas sa foi ?
Je le ferais peut-être, répondit-elle avec un rire étrange, si j'avais vu les mêmes choses que lui.
Je le ferais peut-être lorsque je serai vieille, comme lui. La jeunesse n'a pas besoin de religion, mais de poésie et de philosophie, et encore lui faut-il la poésie inspirée par le vin, la joie et l'amour, la philosophie excusant les folies qui ne durent qu'une saison. Le dieu de mon père est trop terrible pour moi. Je ne l'ai pas rencontré dans les bocages de Daphné, et à Rome personne n'a entendu parler de lui. Mais j'ai un désir, fils de Hur.
Un désir ? Où donc est celui qui voudrait te le refuser ?
Si je te mettais à l'épreuve ?
Nomme-le-moi donc, je te prie.
Il est bien simple, je voudrais t'aider.
Tu viens du pays des Sphinx, ô Égyptienne, et tu en es un. Sois miséricordieuse et parle plus clairement. En quoi ai-je besoin d'aide, et comment pourrais-tu m'en donner ?
Elle lui répondit en riant.
Pourquoi les hommes refusent-ils d'admettre que les femmes ont l'esprit plus prompt qu'eux ?
J'ai eu toute la journée ton visage sous les yeux, et je n'ai eu qu'à t'observer pour voir que tu as un sujet de préoccupation. Pour comprendre sa nature, je n'ai eu qu'à me rappeler ce que tu disais à mon père.
Elle baissa la voix et s'approcha si près de lui qu'il sentait son souffle sur sa joue.
Fils de Hur, celui à la rencontre duquel tu vas ne doit-il pas être le roi des Juifs ?
Le cœur de Ben Hur se mit à battre à coups précipités.
Un roi des Juifs comme Hérode, mais bien plus grand que lui, continua-t-elle.
Il détourna la tête, ses regards semblaient interroger les profondeurs du ciel, mais il se taisait toujours.
J'ai eu une vision, dit-elle. Si je te la raconte, me confieras-tu les tiennes ?
Comment ? Tu ne me réponds pas ?
Elle se détourna comme pour s'en aller, mais il la retint par la main en s'écriant « Reste, reste et parle encore !»«
Ma vision, reprit-elle, la voici. Je voyais éclater une guerre immense. On se battait sur terre et sur mer. J'entendais le cliquetis des armes. On eût dit que César et Pompée, Octave et Antoine étaient revenus à la vie. Un nuage de poussière et de cendres enveloppa la terre et voilà, Rome n'était plus. La domination du monde fut rendue à l'Orient. Une race de héros sortis du nuage et de grandes provinces furent fondées qui attendaient leur satrape. Fils de Hur, pendant que la vision s'évanouissait, je me disais « À quoi ne pourra pas aspirer celui qui servira le roi le premier et le plus fidèlement ?»
Ben Hur poussa une exclamation. Cette question, il se l'était posée plusieurs fois durant la journée.
« Tu trouveras le roi, » dit-elle doucement en posant une de ses mains sur sa tête qu'il inclinait vers elle. « Tu iras vers lui et tu le serviras. Tu gagneras à la pointe de ton épée ses dons les plus précieux et son meilleur soldat sera mon héros. »
Il releva la tête et vit son visage tout près du sien. Il n'y avait pas en ce moment dans toute l'étendue du ciel quelque chose d'aussi brillant que ses yeux, malgré l'ombre qui s'étendait autour d'eux. Il la saisit dans ses bras et l'embrassa avec passion en s'écriant « Ô Égyptienne, si le roi des couronnes a distribué, l'une d'elles sera à moi. Je te la porterai et je la placerai sur ta tête, là où je viens de poser mes lèvres. Tu seras reine, ma reine, et il n'en sera point de plus belle que toi. »
Elle se dégagea tout à coup de son étreinte et, sans répondre à un mot, s'enfuit dans la direction de la tente.